au Festival d'Angoulême, 40e édition avec l'équipe de Badass au grand complet. Je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres.
Alors moi je suis Gaëtan Georges, le coloriste de Badass donc. J'ai travaillé sur 7 naufragés et la série Masquée.
Bonjour tout le monde, Eric Hanna, scénariste de Badass. Et avant j'ai fait l'héritage du Kaiser pour le CAS. J'ai fait 7 détectives dans la collection 7 et Void 01 dans la Grande Évasion.
Et bonjour, je suis Bruno Bessadi, le dessinateur de Badass. Et j'ai également réalisé la série Zorn et Dirna aux éditions Soleil.
Qui a eu l'idée en premier de créer ce personnage un peu fou? C'est une idée de scénariste, ça.
Oui, c'est de ma faute. C'est bien le scénario qui est venu, comme c'est souvent le cas, en premier. C'était une opportunité que m'a laissé David Chauvel. Il savait que j'étais lecteur de comics depuis de nombreuses années. Donc il m'a dit, si tu veux essayer quelque chose dans ce format-là, si c'est bon, Guy Delcourt et moi, on le couvrira. Donc si tu veux faire un truc de super-héros. Et tout de suite, j'ai dit, si je fais quelque chose dans ce genre-là, ce sera forcément du super-vilain. J'avais plutôt envie de voir l'envers du décor, du côté de placer le vilain au centre de l'histoire. Je lui avais dit, je te ferai un truc badass. C'est longtemps resté le truc badass et le titre est resté.
Format comics dès le départ?
Non, on en parlait, on n'était pas sûr d'avoir le format pour, donc on est passé d'abord par du 46 pages classique que j'ai retravaillé pour avoir un format comics de 92 pages de récit plus un petit sketchbook de Bruno à la fin de 4 pages. Donc voilà, il fallait doubler en fait le 46 pages. Ça doublait aussi les effets de chute, ça doublait les vannes de bas de page. On est plutôt bien retombé sur nos pieds, il y avait un peu de retravail mais ça s'est bien passé.
Alors on va rester dans les questions classiques, comment l'équipe s'est constituée?
Une fois que le scénario a été lu, approuvé du côté éditorial avec David et Guy Delcourt, on s'est mis à chercher le dessinateur. Thierry Mornay, qu'on vient de croiser, le responsable du comics chez Delcourt, connaissait Bruno. De notre côté, David et moi, on connaissait que le travail de Bruno sur Zorn et Dirna, donc c'était pas évident à première vue parce qu'il utilise un style différent sur Zorn et Dirna. Mais ensuite on a été sur son blog, on a découvert ces Tortues Ninja qui étaient magnifiques et vraiment dans le pur style comics qu'on cherchait, et c'était parti et on n'a pas été déçus. Mais par contre, dès le début, on pensait aussi beaucoup à la couleur parce que c'est très représentatif du genre, et qu'au lieu d'avoir un duo d'auteurs qui ensuite greffe un coloriste, on a plutôt vu ça comme un trio dès le début, comme une équipe. C'était un vrai travail d'équipe avec Gaëtan.
Un mot à dire sur le scénario quand on est dessinateur?
Oui, on a son mot à dire, mais là, pour l'exemple, quoi, pour Badass, malheureusement, j'ai rien eu à dire. Quoi. C'est pas parce que c'est un dictateur, même si c'en est. Non, enfin bref. Non, c'est que moi, je l'ai lu, en plus, je l'avais reçu par mail. Je l'ai lu avec beaucoup de retard parce que je suis pas trop internet et pas trop mail. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais bordel, c'est trop je réponds trop tard, ils ont dû trouver un dessinateur. Donc, non, voilà, moi, j'ai signé les yeux fermés parce que le scénario m'a vraiment plu. Et ensuite, c'est clair qu'on a eu des petites modifications entre nous, parce que ce qui passe par l'écrit ne passe peut-être pas de la même façon par le dessin. Donc après, c'est des modifications logiques où on met chacun son ego de côté pour le meilleur de l'album.
Liberté totale de mise en scène ou un peu de direction quand même sur les angles? Parce que c'est super en mouvement, en tout cas, dès qu'il utilise son pouvoir, forcément, il y a un angle à prendre.
Bah en fait, les deux, ça dépendait. Si l'idée que me proposait Eric via le scénario était la meilleure, je la faisais. Et si ce que je proposais était mieux, on faisait ce que je proposais, et ainsi de suite. Quoi. C'est vraiment, encore une fois, quoi, c'est la meilleure solution qui est retenue. Quoi. En plus, notre directeur de collection, David Chauvel, aussi mettait en plus son expérience et son petit mot à dire aussi. Et quand c'était lui qui avait la meilleure idée sur nous deux, on prenait la meilleure de toute façon. Quoi.
Ça nous emmerdait, mais on le faisait.
Voilà.
Voilà. David, si tu nous écoutes.
Et pour les couleurs, liberté aussi ou orientation
Je vous réponds à sa place.
Alors bon, du coup on va se répéter encore, c'était beaucoup de liberté, pas beaucoup de consignes au départ, mais ensuite, quand j'envoyais ma planche, il y avait tout de suite des retours, la planche circulait par mail, et que ce soit du scénariste ou du dessinateur, même de David Chauvel, le directeur de collection, il y avait tout de suite des retours pour les retouches, et chacun, moi-même, on a nos petits trucs, donc on est tous un peu pinailleurs.
On est tous maniaques, il y a vraiment un souci du détail, et vraiment à tous les niveaux, autant Eric va me faire chier parce que j'ai oublié une virgule ou parce que il y a des trucs comme ça, quoi. Donc on est tous libres mais sous la contrainte de chacun, quoi. Mais malheureusement c'est peut-être Gaëtan qui, vu qu'il passe en dernier, qui reçoit tout toute l'avalanche, quoi, mais on est tous des pinailleurs, quoi.
Des gens exigeants.
On est exigeants en fait.
Pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, je vais vous demander sur cette page-là, qui est la page numéro 15 du comics, de m'expliquer exactement, à partir du scénario, ce que vous avez fait et comment ça s'est présenté. Comment est-ce que le scénario a été écrit, du coup comment ça a été récupéré, travaillé et à la fin colorisé. Non, tous les uns après les autres.
C'est une anecdote là-dessus en plus.
En fait, dans le scénario, il y a une description. En fait, j'essaye de pas bourrer le scénario d'une avalanche de descriptions, justement pour que le dessinateur ait sa part créative dans le projet. Vous avez le nombre de cases et celui que j'avais indiqué sur le scénario. Les dialogues sont évidemment ceux que j'ai longuement mûri et réfléchi. Et ensuite, voilà, il y a des descriptions succinctes de mouvements. Par exemple, case 3, on voit Jack sourire avec un air dédaigneux. J'ai dû le mettre dans le scénar. Et ainsi de suite, plan large éventuellement. Gros plan sur la cigarette dans l'œil du type à la fin, enfin voilà. Et après, c'est l'adaptation avec Bruno.
Moi, si ma mémoire est bonne, à la fin de celle-là, en fait, il devait déjà lui mettre la clope dans l'œil.
Oui.
Et on avait rien. J'avais proposé donc de changer pour que la clope apparaisse dans la page suivante pour faire une espèce de suspense à ce moment-là. Donc, ça, en fait, c'est vraiment la page. On ne sait pas qu'on sortait avant, mais c'est vraiment la page typique de notre collaboration. C'était pas vraiment la même dernière case, mais on l'a changé pour la bonne cause. Quoi. Et au niveau des couleurs.
Ce qui est marrant, c'est que moi, c'était ma planche test en fait.
Ouais, en plus.
C'était ma première planche que j'ai mise en couleur. Donc. C'est la première planche que j'ai vue de Bruno aussi.
C'est pour ça qu'il est un peu violet.
Et il a ouais, ça va, t'exagères. Mais ça, c'était pas dans le scénar. Alors, à la limite,
c'est un running gag entre nous parce que au début, quand il a commencé, Gaëtan, il avait mis une espèce de patine un peu violette sur Jack et sur le costume. Et je détestais le violet et je barbouillais les mails de pas le violet.
Il me disait ça, plus j'en mettais parce que.
Même si Medeus Kitty, moi je la voulais violette et toi t'as pas voulu quoi.
Non, parce qu'il faut jouer aussi avec les codes couleurs. Chaque couleur a des grands. À des explications d'appartenance à des sentiments, voilà, donc faut pas trop s'emmerder avec ça non plus, mais c'est important, il y a des couleurs qui peuvent pas aller à certains personnages. Quoi.
Là dans le scénario, il y avait que Dragon Vert, le reste, il y avait pas voilà, trop.
Donc il y avait une petite indication pour toi dans le nom du personnage.
Dragon Vert, ouais.
Voilà. Alors, tu l'avais fait rouge au début, on te l'a fait.
Ça c'est fou.
À la fin de ce premier volume, on sait pas trop ce qui se passe en fait. On sait simplement que c'est un gars qui tue d'autres gars, qui a son pouvoir de balancer des trucs un peu n'importe comment et finalement il arrive toujours à toucher sa cible. On n'a pas encore d'empathie vraiment pour lui parce que ça quand même, on a l'impression que c'est quand même effectivement un sale type. Malgré le fait qu'il s'en prenne aussi bien aux méchants du coup qu'aux forces de l'ordre, donc bon, il est peut-être pas si méchant que ça. C'est une volonté de laisser toujours un petit peu en suspens pour amener le lecteur soit à se poser plein de questions, ou peut-être que j'ai rien compris en le lisant et c'était super clair.
Non, il y a quelques éléments de réponse quant au non-pouvoir ou au réel super-pouvoir de Jack. Voilà, ça sera développé dans les tomes suivants. Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce que c'est infaillible? Est-ce que c'est vraiment un pouvoir? Nous, on voulait que enfin, de mon côté, je voulais que le pouvoir soit lié à l'intrigue, parce que généralement, on présente les super-héros, les super-vilains, avec leur pouvoir, c'est une des capacités, enfin, c'est les atouts et les... C'est comme ça qu'on les définit, en fait. Moi, je voulais que ça soit au cœur de l'histoire. D'où la question qui vous laisse un peu perplexe, apparemment.
Bah, justement, comme il est un peu, on va dire, freelance, ouais. Il tape sur tout le monde, ouais. On ne sait pas si on peut avoir de l'empathie pour lui ou si, au contraire, on doit le détester.
Ça doit dépendre des sensibilités. On peut le trouver attachant parce qu'il a quelques bonnes vannes ou parce que on peut reconnaître un parcours. Enfin voilà. Après, selon les sensibilités, je comprends que c'est oui ou non, pas du tout. Ou c'est tout à chacun.
On l'a trouvé attachant, mais c'est peut-être parce qu'on l'a travaillé dessus aussi. Ou on est des psychopathes, je sais pas. Ça dépend.
Sur le dessin, le fait que quand il ait son masque, il ait les yeux tout blancs. C'est venu comme ça, c'était une volonté au départ ou ça s'est fait par hasard? Enfin, par hasard.
Non, ça c'était une de mes volontés dès le début parce que j'adore les yeux sans pupille. Voilà, je trouve ça caractérise un masque plus que. Et puis, avec ce côté énigmatique planqué derrière, voilà. Donc, ça c'était déjà dans le scénario, dans la définition du perso. Mais Bruno a amené deux éléments particuliers que j'adore, dont il va vous parler.
Avant, je voulais revenir sur le fait qu'il ait les yeux blancs. C'est esthétiquement, c'est vrai que c'est classe. On peut trouver sa classe ou pas. Mais graphiquement, c'est une contrainte supplémentaire parce que moi, j'aime bien justement jouer avec le regard et entre la direction du regard et aussi l'intensité du regard. Et là, du coup, j'avais un élément en moins pour rendre le personnage expressif. Et du coup, c'était un petit peu une contrainte supplémentaire. Et par rapport aux descriptions de base que Eric m'avait fournies, j'ai rajouté les baskets avec le coaster. Vu qu'il est un petit peu actif, notre personnage, ça collait mieux. Et j'ai rajouté aussi les cheveux qui dépassaient de la cagoule pour montrer que c'est un petit branleur. Quoi, que c'est pas un petit branleur, mais c'est un peu un je m'en foutisse, quoi. Il enfile sa cagoule sans trop se préoccuper de rentrer ses cheveux dedans, quoi. C'est un petit peu à la va-vite.
Et du coup, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur le costume. C'est pas un peu frustrant d'avoir un personnage principal qui est tout en noir, quoi?
C'est pour ça que le blond, finalement, s'est arrêté sur le blond. C'est que comme il y a peu de couleurs dessus, le blond ressort vachement. Et à l'origine, il était brun dans le scénar. Bruno l'avait fait châtain. Et c'est vraiment quand on a essayé le blond à la couleur qu'on a fait. Ça marche, ça.
Bah alors, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais alors, les autres personnages qui interviennent après dans l'album, je ne sais pas si on peut en parler. Après, c'est plutôt. Enfin, ouais. Voilà, bah, y a beaucoup de personnages. Et c'est là que ça peut. Il y a beaucoup de possibilités de couleurs. Donc, on se rattrape après. Et puis, c'est pas fini non plus. Donc.
4 tomes de prévu, fin de cycle définitif, ou est-ce que pourrait y avoir un deuxième arc pour raconter d'autres choses après, ou des spin-offs, parce que justement à la fin on attend de découvrir un personnage, un autre, qui a l'air particulièrement important, on pourrait développer peut-être à l'envie après.
C'est ça, moi je voulais venir, je voulais proposer un récit complet. D'ailleurs, le premier tome peut être lu comme un récit complet en soi. C'est pour éviter, contrairement à nous, enfants, on attendait des mois pour avoir la suite de Nono Strange. Et voilà, moi je voulais proposer une histoire complète. La Fontaine disait toujours, en chaque chose, il faut savoir considérer la fin. Et j'adore cette phrase. Et
c'est une exclusivité interview, c'est la première fois qu'il la sort.
Ouais, ouais. Une exclusivité. Et non, parce que je l'ai réutilisé, enfin vous verrez, bref. On parlait de quoi ?
On parlait de La Fontaine.
Oui, l'arc complet, donc 4 tomes, ça sera notre premier arc. Et faut voir si le lecteur si le lecteur est séduit, s'il y a l'envie. Si, de notre côté, évidemment, ouais, parce qu'on s'est attaché à nos personnages et l'envie est là. Évidemment, on évoque éventuellement des spin-offs. On va déjà essayer de bien travailler sur ces 4 albums et c'est très envisageable, ouais, évidemment, et tentant aussi.
Quel est le personnage qui est le plus demandé en dédicace?
En fait, là, vu que la BD est sortie il y a 15 jours, donc les gens n'ont pas encore eu le temps de se l'approprier. En Angoulême, notamment, vu que les files d'attente sont assez longues, les gens lisent la BD et arrivent à nous atteindre. Donc, on va dire que celui qui revient le plus souvent, c'est le personnage principal, Dead End. Après, je pense qu'il y a le personnage féminin de Amadeus Kitty. En numéro 3, je dirais Black Snake. Et j'ai eu pas mal de Jack quand il était adolescent et boutonné aussi. Et ensuite, il y a aussi le personnage du dragon vert qui, on va dire que le top 5, c'est ça, quoi.
Il y a un personnage qui est plus agréable à coloriser, peut-être parce que justement il y a un peu plus de couleurs.
Moi j'aime bien Amadeus Kitty, ouais, pour peut-être ses formes, son anatomie. Et...
Pervers. Non, mais ça fait des ombres.
C'est vrai, il y a du modelé. Puis les couleurs aussi sont sympas, du coup. Et j'aime aussi pas mal Black Snake, mais pour l'incrustation de la texture. C'est les deux principaux.
Pour la texture, en fait, c'était un travail assez... on ne se rend pas compte quand on fait de la BD, mais c'est quand même un travail assez exigeant et laborieux en soi, parce que Gaëtan, en plus de mettre en couleur, c'est-à-dire la teinte principale du personnage plus les ombres, il incruste ce qu'on appelle une texture, et notamment là pour ce personnage qui dans le blason est un serpent, il incruste une texture qui suggère un petit peu l'écaille. Donc il incruste ça dans tout le personnage en tenant compte du volume que j'ai dessiné, de s'il est en gros plan il va l'incruster les écailles plus grosses, s'il est de loin elles sont plus petites. Donc c'est vraiment un travail supplémentaire, et du coup ça rapproche vraiment du dessin. C'est pas que du coloriage, du remplissage, ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire au dessin.
Une musique à écouter en même temps qu'on lit Badass?
Deep Purple. Non, parce que c'est le groupe préféré du meilleur pote de Jack, et ouais, ça marche.
Moi j'aurais dit le bal masqué de la Compagnie Créole, mais c'est une blague en fait. Chica chica ta, chica chica ta.
Pour terminer nos interviews, cette année, on a une question qui est celle-ci. Si on vous donnait la possibilité d'avoir un animal familier un petit peu particulier parmi les quatre propositions que je vais vous faire, lequel est-ce que vous allez prendre ? Entre l'alien, mais celui de Ridley Scott, un Gremlins, la chenille de Alice au Pays des Merveilles ou un phénix ?
Alors, par rapport à mes souvenirs d'enfance et l'affection que j'ai pour ce film, je vais prendre le Gremlins en fait.
Je vais prendre la chenille parce que je me suis toujours demandé ce qu'il fumait et ça serait un bon moyen de vérifier.
Bah comme Bruno, hein, c'est le Gremlins qui m'a le plus marqué, donc je prends le Gremlins.
Un mot à ajouter, un truc sur l'ambiance du festival, c'est les 40 ans.
C'était super.
Moi je dirais porte-manteau.
Ça se prête à la localisation.
J'ai dit deux mots, je me suis trompé. Je dirais juste porte alors.
Non, on a été bien accueillis, c'était un plaisir. Et puis pour une fois, on se retrouve enfin en vrai, plutôt que. On peut dire des conneries en vrai plutôt que par mail interposé. Donc, puis voilà, et c'était un plaisir de vous avoir aussi. Tout ça, Gaëtan.
Formidable.
Voilà. Par contre, je voudrais revenir sur un détail. Tout à l'heure, Bruno a dit l'album est sorti il y a 15 jours. Les lecteurs n'ont pas eu le temps de se l'approprier. Je voudrais juste préciser que la lecture de l'album ne prend pas forcément 15 jours.
Tu casses le business.
C'est tout.
Merci.
Merci à vous.